Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de QG pour cette nouvelle saison. J'espère que vous avez tous passé un bon été et que vous avez pu prendre un peu de temps pour vous et pour vos proches. Beaucoup de nouveautés à vous annoncer très bientôt sur notre média, de nouveaux visages, le début de l'investigation. Un nouveau site aussi qui arrivera dès ce lundi 1er septembre avec une toute nouvelle esthétique, des fonctionnalités simplifiées et repensées. On vous en parlera et on vous montrera des visuels dès ce week-end. On est très contents de nous, inutile de vous le dire. Mais ce soir, on reprend l'année directement dans le dur de la politique avec mes camarades Didier Maistre et Harold Bernat pour un quartier populaire de rentrée particulièrement brûlant. Bonjour les amis, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances?
Bonsoir à tous. Oui, enfin moi je ne me suis pas véritablement arrêté, hein, je ne me suis pas du tout arrêté même, mais je suis encore dans mon sud, là, autour de Toulon, voilà, donc j'ai quand même l'impression d'être un petit peu en vacances, au bord de l'eau, avec les miens, mes amis, mes paysages. Je me sens bien, je me sens chez moi. La terre c'est important et la mer aussi.
Harold, c'est bientôt la rentrée des profs, je crois savoir.
Ah, ça urge, là, c'est demain. C'est demain, c'est là. Alors, il y a plusieurs établissements. Il y a des établissements où on est obligé d'entendre la litanie, la liturgie des proviseurs et proviseurs adjoints avant d'avoir l'emploi du temps. Hein. C'est le petit cérémonial de rentrée. Moi, j'ai la chance d'avoir un établissement avec un proviseur adjoint qui font très bien le travail. Donc, on connaît un petit peu le service à l'avance. Donc, voilà, je plains les collègues qui sont obligés de souffrir, évidemment, cette petite brimade symbolique. Voilà, donc j'espère que tous les deux vous avez passé de très bonnes vacances. Je suis très content de vous retrouver hein, dans une actualité qui est évidemment passionnante et tendue. Voilà, sinon j'ai fait du vélo parce que c'est mon activité voilà, du cyclotourisme, on va dire.
Les abonnés de Twitter ont pu suivre ça tous les
Voilà.
deux, tes performances.
Ouais.
Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'un François Bayrou usé, déconnecté et bunkérisé nous offre une bonne surprise en cette fin d'été. Et néanmoins, l'impensable est arrivé. Le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République, je rappelle qu'il y a plus de 80% d'opinions défavorables, a annoncé qu'il se soumettrait à un vote de confiance le 8 septembre prochain, de manière anticipée par rapport au vote du budget austéritaire qui était prévu. Une décision évidemment kamikaze qui entraînera très probablement sa chute et celle de son gouvernement, avec une réaction en chaîne qui pourrait entraîner très prochainement une dissolution de l'Assemblée nationale, des législatives anticipées, d'autant que tout ça vient se connecter avec une date de mobilisation le 10 septembre qui a émergé cet été du fond du désespoir français, même après 23-49-3, des gens lancent encore des dates de mobilisation et cette fois-ci, ça a relativement bien pris. Nous allons en parler évidemment ce soir avec vous, car nous sommes réunis tous ce soir pour parler de la nouvelle période de turbulence politique imminente. Je vous invite bien sûr à poser vos questions sur le chat de QG. Nos community managers ce soir, Thibaut et Maxime, nous les remonterons en direct. Nous essaierons bien sûr d'en prendre un maximum car nous sommes ravis de vous retrouver. Mais tout d'abord, première question très simple hein, à mes camarades. Comment est-ce que vous interprétez la décision de François Bayrou? Il se savait condamné et il devance l'appel finalement, Didier?
Oui, c'est ça en fait. Hein. Il se savait condamné depuis les précédentes élections, d'abord les européennes, hein, puis ensuite les législatives. Il n'y a pas de majorité. Et comme il n'y a pas de majorité, on est toujours. Alors les gens disent la crise. C'est pas une crise puisque c'est chronique. Et donc, voyant qu'après, nous étions déjà quand même dans une situation en termes de finances assez catastrophique, hein, puisque je rappelle, c'est 5 135 euros de dette supplémentaire par seconde, hein, mais ça, c'est Mozart de la finance. Hein. Il faut vraiment être un bon banquier pour arriver à ces chiffres astronomiques. Faites 15 euros de découvert et vous allez voir ce qui va vous arriver. Bon. Donc, d'une certaine manière, François Bayrou se savait condamné. Il savait qu'il n'allait pas avoir de majorité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est assez habile, parce que, de leur point de vue à eux en tout cas, hein, ce que veulent ces gens qui n'ont pas d'amour propre, c'est durer. Et il offre, d'une certaine manière, une porte de sortie à son chef Emmanuel Macron. Comment? Eh bien, il dit, moi, je suis responsable. Du coup, il s'exonère, ça fait 50 ans qu'il est élu, hein, quand même. Il a participé à tous les exécutifs, comme M. Retailleau, participé ou soutenu tous les exécutifs qui ont fait de la dette, à l'exception de François Hollande, qui en a fait beaucoup, mais qui était soi-disant de gauche, ça m'a toujours fait sourire, hein, avec Valls, ou de Jospin, qui était le gouvernement qui a le plus privatisé de la Ve République. Bon, tout ça, c'est une continuité. Et donc, ils n'ont pas de majorité. Ils essaient de s'exonérer de la dette à bon prix en disant, je tiens un langage de vérité. Regardez, espèce de boomer qui n'avait rien fait de votre vie. Moi, je parle pour les générations futures. Responsabiliser l'ensemble des oppositions, les envoyer, c'est eux qui veulent continuer à faire de la dette. Et certains tombent dans le piège en disant que la dette, c'est pas si important que ça. Évidemment que la dette, c'est important. Parce que ça obère les capacités d'action, notamment sur les services publics ou sur les prestations sociales, les retraites, ou en tout cas, ça fournit des argumentaires en ce sens. Et voilà, donc on peut imaginer, on ne va pas aller trop vite en besogne, mais que, évidemment, bon là, je pense que tout le monde l'a annoncé, même les fourbes du Parti Socialiste, hein, le PS, Europe Écologie Les Verts, enfin toutes les forces de gauche, le Rassemblement National. Je vois pas trop comment il peut s'en y échapper. Mais, ou, premièrement, deuxièmement, il va sans doute. Monsieur Macron a dit qu'il ne dissoudrait pas. Pour l'instant, il dit ça. Il y sera peut-être contraint et qu'il ne partirait pas et qu'il gouvernerait jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier quart d'heure. Donc, il va nommer quelqu'un d'indigne comme lui, qui est le plus parfait pour moi, qui a toutes ses qualités. Je vais dire intrinsèque, bah, c'est Bernard Cazeneuve, hein, c'est vraiment l'insignifiance personnifiée. Hein, il a réuni ses militants, hein, ils se sont réunis dans un studio dans le 16e, puis tous ces militants, ils sont au nombre de, ils sont 8. Hein, et donc voilà où nous en sommes. Donc ça ne règle rien. Et évidemment, on va en parler, mais ce qu'il y a en ligne de mire. Il y a cette première séquence, ensuite il y a le 10 septembre, c'est le départ d'Emmanuel Macron. La destitution, il y a peu de chances que les partis politiques aient le courage de la mettre en place. Peut-être une démission par l'effet de la rue. Comme souvent, j'ai dit que je ne croyais plus à une solution par les urnes. Il va falloir mettre la pression partout, dans la rue, dans les blocages, dans les grèves, pour qu'on change, parce que sinon on va continuer comme ça, cas un cas, jusqu'en mai 2027, et il ne se passera rien de particulier.
Alors, beaucoup de choses, hein, Didier, tu nous donnes le programme là, dans ta première intervention. Est-ce qu'on peut, tu dis, bon, on ne peut plus miser que sur la rue, mais est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose de la rue après les gilets jaunes, après la réforme des retraites, après tous ces échecs? Nous-mêmes, on est affectés par ça, on est impactés par ça. On a ce pessimisme-là.
De toute
Qu'est-ce qu'on
façon, Aude,
peut faire
évidemment,
encore?
on n'est pas devin. Hein. On ne sait pas ce que peut. Et tu l'as mis en titre d'ailleurs, enfin dans le petit laïus qui a accompagné cette soirée. Est-ce que le 10 septembre va réussir ou la lutte contre la réforme des retraites ou les gilets jaunes ont échoué? Ça, nul ne le sait, puisqu'on ne sait pas tellement. On sait quand ça part, mais on ne sait pas comment un mouvement peut ou s'encalminer ou au contraire se développer et exploser. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans une société telle que la nôtre, où les oligarques ont tous les médias officiels, où en dépit de tout ce qui se passe, Il y a quelques voix un petit peu dissonantes, mais pas beaucoup, hein, vont défendre quand même la dette. Ça y est, c'est parti, vous vous rendez compte. Regardez, la gauche ne veut pas voter. Alors la dette, ça exonère tout le monde. Je ne vois pas si M. Macron reste en place, et même s'il y a une dissolution, je ne vois pas pourquoi le résultat changerait dans l'état actuel des forces. Il n'y a aucune raison objective, d'autant qu'en plus, le nouveau Front populaire est pour le moins abîmé, et que de toute façon, il fallait que ça s'arrête parce que
En
c'est
parler, ouais.
voilà, c'est plus souhaitable. Mais comment on peut. Ça va être encore plus atomisé. C'est-à-dire que si on essaie de faire du neuf avec du vieux et de refaire des unions qui n'en sont plus, avec un parti socialiste
Ouais, bien.
qui aussi, entre, ben, on soutient un peu Macron, on ne soutient pas, le LFI, c'est plus possible, c'est plus jamais LFI. On voit bien que la gauche, ça ne veut plus rien dire en termes unitaires et qu'elle n'est plus en capacité d'être le premier parti, la première force politique. On voit bien que le Rassemblement national a aussi du plomb dans l'aile avec le sort qui a été fait ou qui sera fait, en tout cas, puisqu'on est en appel, il y aura un appel avec à Marine Le Pen. Donc tout ça est incertain et j'allais dire les Républicains qui jouent les supplétifs de M. Macron et qui, comme depuis le début, hein, M. Philippe et toute sa bande, dès la fin du premier tour en 2017, M. Le Maire, Darmanin, tout le monde, enfin, accompagne ce gouvernement, ces différents gouvernements, et ont lutté contre les motions de censure, ont toujours sauvé la mise de M. Macron et de M. Bayrou et des précédents premiers ministres, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Donc il n'y a pas de solution politique.
Alors, Harold, revenons au début. J'aimerais avoir ton interprétation de la décision de François Bayrou. Celui-ci dit, je ne passerai pas en force. Néanmoins, il a accepté d'endosser le rôle de Premier ministre d'un président qui est passé sans cesse en force depuis 2017. Je le rappelais en introduction, 23-49-3. Donc, il ne peut pas passer en force ou il ne veut pas passer en force?
Bon, d'abord, pour revenir un peu aux discussions qu'on a eues il y a un an, moi j'ai l'impression de vivre un immense nanar politique, hein, puisqu'on est exactement au même point qu'avec Barnier. Enfin, on nous a amusés pendant des semaines avec Barnier, mais Bayrou, c'était la loose, c'était la même loose en fait, mais sauf qu'on est un an après, un an après. Donc c'est absolument incroyable. C'est l'échec de la politique de l'offre, c'est l'échec en fait de Macron, c'est l'échec de la politique de Macron. Bayrou, de toute façon, c'est vraiment le politicard moisi, l'anguille visqueuse. Il dit tout et son contraire. Moi, c'est une sorte de Macron vintage, un peu Bayrou. C'est une sorte de Macron avant l'heure, quoi. Donc, et que la Startup Nation s'achève en fait dans ce Macron vintage. C'est à la fois dérisoire, pathétique, c'est grotesque en fait. Enfin, vraiment, tout ça est grotesque. C'est grotesque en fait. Mais ce qui est un peu effrayant quand même, quand on regarde un peu la presse, quand on regarde un petit peu les causeries autour de tout ça. La stratégie de Bayrou, moi j'ai pu lire par exemple qu'il préparait même la présidentielle 2027, quoi. C'est un peu ce que tu dis, Didier, c'est-à-dire que non, mais il faut quand même il faut imaginer ce qu'il y a dans la tête de ces gens, c'est-à-dire que Bayrou s'imagine encore un destin présidentiel. Enfin, voilà, c'est la folie, quoi. Donc, et on est pris dans cette folie, mais c'est d'abord la folie d'un homme. Et je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que toutes les diversions sur les stratégies de Bayrou ne nous feront pas oublier que le comptable de la situation, c'est Macron.
Tout à fait.
Et il ne se passera rien tant que Macron sera là. Donc là, on a un choix. Soit Macron reste au pouvoir jusqu'en 2027, il ne se passera rien, c'est-à-dire qu'il va faire des attitudes dilatoires, il va attendre pour nommer son Premier ministre. Après, le Premier ministre va prendre du temps pour faire son gouvernement. Peut-être qu'il y aura un vote du budget en décembre et peut-être pendant la traite des confiseurs, on ne sait pas trop. On va gagner du temps. Après 2026, après il y a le foot, hein, il y a le mondial de foot. Enfin bref, non, mais c'est ça le temps, en fait, le temps de l'attente et du pourrissement. Macron, c'est un professionnel, un spécialiste du pourrissement politique. Et Bayrou fait partie de cette stratégie. Donc de
Mais est-ce
toute
que,
façon.
Harold, pardon, est-ce que c'est pas, je te coupe, est-ce que c'est pas la fin de la cavale justement, à savoir, est-ce qu'après un Barnier, un Bayrou, il peut encore nommer un troisième cheval de retour ou un troisième enfin, couteau pour gagner du temps? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est pas la fin de ça qu'on est en train de vivre d'une certaine façon?
Moi, je pense que oui, rationnellement, tu as raison. Rationnellement, c'est la fin de ça, mais le personnage est tellement faux et tellement. comment dire, antidémocrate, je dirais, sur ses réflexes politiques, que non, je crois qu'il va continuer comme ça. D'ailleurs, il a fait la dissolution alors que personne ne l'attendait. Là, on attend la dissolution, c'est pas sûr qu'il fasse cette dissolution. Ou alors, il le fera vraiment en dernier ressort. Mais je pense qu'il va d'abord utiliser le temps, le blabla, le compromis, et il va laisser pourrir, en fait, les choses. Et c'est pour ça, juste pour faire la transition, on va y revenir sur le 10 septembre. Pour moi, ça peut marcher si on a un mot d'ordre qui est cohérent, qui est dire, en fait,
Venir.
il faut dégager le responsable, en fait. Il faut dégager Macron, et après, on verra ce qui se passe. Et c'est pour moi, c'est le seul, je dirais, c'est le seul mot d'ordre cohérent et qui peut faire l'unanimité, enfin, en tout cas, qui peut faire une sorte de synthèse, et pas simplement lutter contre une réforme ou essayer de trouver je dirais, des compromis politiques. Là, on a un problème. Est-ce qu'on attend jusqu'en 2027? Est-ce qu'on joue le pourrissement Macron? Ou est-ce qu'on le pousse, on le pousse dehors, en fait, enfin, tout simplement. Parce que
La
je pense
seule
qu'on n'en est pas.
question, c'est la seule
Le
question.
sérieux de l'analyse politique, elle est là, à mon avis.
Oui, parce que tu as raison, je pense que, pour compléter, il peut complètement jouer le pourrissement, il peut mettre un Cazeneuve et puis encore une Aurore Berger derrière et puis un Lecornu. Les gens acceptent en général d'aller à Matignon, quelle que soit la situation, hein, ne serait-ce que pour les avantages y afférents ensuite. Pour mettre sur son CV, c'est toujours bien d'avoir été Premier ministre de la France. Bon, ça, c'est sur le plan intérieur, donc ils vont dramatiser sur la dette en disant, vous êtes bande d'irresponsables, regardez notre génération, la planète est en feu, la France est en faillite, les marchés, et vous n'osez pas voter pour un budget qui vous demande de faire des efforts. Ça, c'est sur le plan, je dirais, d'abord intérieur. Et puis, il y a sur le plan international, Monsieur Macron est le spécialiste, il va nous inventer, il a commencé à le faire, je l'avais dit avant-hier, il l'a fait hier, hein. De toute façon, c'est tellement couru, celle-là non plus, c'est pas de l'ordre de la seconde vue chez Balzac, hein, il suffit de mettre un petit peu ses lunettes, il va nous faire le coup de la guerre hybride, de la guerre informationnelle, de la Russie qui est à nos portes, qui va nous envahir, qui est aux portes de Paris, etc. Et que si on ne réagit pas, on va avoir vraiment des gros problèmes. Et que ça demande des efforts, d'abord en part du PIB pour nourrir notre défense. Alors qu'en réalité, on sait bien que c'est pour répondre aux injonctions de M. Trump, puisqu'on va financer, ni plus ni moins, que l'armée de l'OTAN en achetant 100% du matériel au complexe militaro-industriel américain, états-unien. Donc il va jouer sur ces deux tableaux, et puis il va nous faire un peu d'international pipeau au mois de septembre sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Donc voilà un peu les trois paramètres qui vont entrer en ligne de compte, avec des médias officiels, je ne les appelle plus mainstream, parce que je trouve que maintenant c'est un peu dépassé, il faut les appeler médias officiels, hein, qui vont relater complètement la parole présidentielle. J'ouvre juste une parenthèse que je referme très vite, les chiffres sont tombés sur les médias officiels. Par rapport à nous, les médias officiels sont infinitésimaux, hein, les parts d'audience. Il y a très peu de gens, il y a 63 000 personnes, hein, qui regardent France Info, de mémoire, hein, 157 000 LCI et 250 000 CNews, hein. Parfois on fait des lives à plusieurs millions de vues. Donc voilà, le rapport de force est en train de s'inverser. Il faut quand même savoir de quoi on parle, combien de
Ça
divisions.
correspond aussi, Didier, au délabrement de la parole politique, parce que quand on voit Bayrou, là, ses trucs YouTube, ses interventions, c'est misère.
Personne. Il était
Ses
tout seul.
scores sont misérables. Enfin, il
Misérable.
se prend pour Mendès France, je ne sais pas, mais c'est minable. Mais qui a envie d'écouter
Il
Bayrou? Enfin, il
fait
faut
beaucoup
vraiment être.
d'honneur à Harold en parlant de Mendès France.
C'est vrai. Faut être au bout de sa vie quand même pour vouloir écouter Bayrou 10 minutes sur YouTube, quoi. C'est pas possible.
Les insomnies, c'est bien.
Néanmoins, notre grande presse nationale, hein, comme l'Express, titre en couverture cette semaine le moment churchillien de François Bayrou. Voilà,
Non,
je
mais
voulais
on peut
signaler pour montrer où nous en sommes, où est le curseur. Néanmoins,
écrire n'importe quoi, hein, c'est oui.
y a une hypothèse, messieurs, que vous n'examinez pas. Et qui, je prends le risque, et un petit peu la mienne en fait, depuis un an, hein, depuis l'été 2024. Moi, je pense qu'en 2024, Emmanuel Macron décidant une dissolution de l'Assemblée nationale juste après des européennes extrêmement favorables au Rassemblement national, où le Rassemblement national était au plus haut de la vague électorale depuis toujours. Emmanuel Macron, finalement, est-ce qu'il n'attend pas un Premier ministre issu du groupe Rassemblement national? Est-ce qu'il ne va pas dissoudre? Est-ce qu'il n'est pas en train de mentir comme il l'a fait tout l'été? Tout l'été, il nous a expliqué qu'il soutiendrait jusqu'au bout François Bayrou, qui était l'homme de la situation, etc., alors qu'il n'en pense pas un mot. Est-ce qu'il ne va pas dissoudre à l'automne? Est-ce qu'il n'espère pas finalement refiler une situation totalement désespérée et pourrie sur tous les fronts? On va y revenir un peu plus tard à la situation de la France au cours de cette soirée, parce que c'est quand même ça l'essentiel, au Rassemblement national, en espérant au passage, comme toute une classe politique qui nous gouverne depuis 40 ans, les griller d'ici 2027 et revenir en 2027 tous avec un Édouard Philippe ou je ne sais pas qui, pour se redistribuer les postes, les prébendes et les subventions.
C'est une hypothèse qui est tout à fait plausible et qui est hautement probable. On ne l'a pas évoqué, mais effectivement, et elle est à double détente. Il y a eu une première phase, parce que moi j'avais toujours dit, si tu t'en souviens, depuis longtemps, que Marine Le Pen ne serait jamais élue et que si elle montait trop haut, il y aurait une histoire judiciaire qui serait fabriquée sur mesure pour l'exclure du système. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Le parquet national financier. A été fait pour ça, hein, par François Hollande. Il a déjà exfiltré François Fillon. Et en vérité, ce qui arrive à Marine Le Pen pourrait arriver à n'importe quelle force politique représentée au Parlement. Et je dis bien n'importe quelle force. Et j'y étais, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, donc je peux en parler assez tranquillement. Des LR en passant par le MoDem, LFI, le PS, etc. Tous, à un moment donné, ont utilisé des assistants parlementaires pour faire de la politique, hein, que ce soit pour le Parlement européen ou le Parlement français. Donc ça, c'était le premier étage de la fusée, faire en sorte à la fois de l'empêcher de pouvoir se présenter, en assortissant sa peine d'une peine d'inéligibilité, en montrant que le Rassemblement national était un parti pourri, en fait, hein, qui allait piquer dans la caisse, et en mettant en difficulté le tandem Marine Le Pen-Jordan Bardella, en appuyant sur l'inexpérience de Jordan Bardella, et disons-le tout net, sur le fait qu'il soit quand même un ballon de baudruche. Hein. Il est plein de vide. Je pense que c'est quelqu'un d'hypermnésique, hein, moi j'en ai eu un à la radio, c'est des gens un peu comme l'autodidacte de Sartre, on en parlait la dernière fois. Bon, il en est à la lettre P, hein, il est déjà avancé, présidentiel, mais il ne faut pas lui parler de la lettre Q, parce que là, encore que Q, il pourra peut-être répondre. Mais en tout cas, de la lettre R, là, il va être un peu paumé. Et c'est bien le problème. Et donc, c'est assez habile. Dernier élément qui va dans ton sens, c'est de dire, OK, moi je suis un démocrate. Ça fait combien d'années que vous nous dites on n'a jamais essayé le Rassemblement national? Eh bien, je tente le pari, puisque c'est effectivement la première force politique. Après une dissolution, ça sera la première force politique, encore une fois. On peut le parier sans trop d'audace. Et donc,
Davantage encore qu'en juillet 2024.
oui, et donc ça peut être.
Tenu des exploits du Nouveau Front Populaire et
Voilà.
justement du PS et de
Et
l'FI.
comme le calendrier sera précipité, et que le Rassemblement national sera pris à son propre piège, parce que le Rassemblement national, qui était disruptif et a voulu à tout prix rentrer dans le rang sur les institutions européennes, sur les questions médicales, sanitaires, sur les questions économiques, sur les questions régaliennes, il a même mis de l'eau dans son vin sur l'immigration, et il soutient Israël et l'Ukraine, ce qui est quand même un comble. Donc, quelque part, c'est prendre le Rassemblement national dans son propre piège en disant, bon, d'accord, vous n'êtes pas des fascistes, mais qu'est-ce que vous avez fait de mieux que les autres? Rien. Donc, la seule solution, on a tout essayé, elle n'est pas dans les extrêmes, c'est de refaire une espèce d'union nationale, de comité de salut public, sans dire leur nom, avec les forces sociaux-démocrates qui iront d'Édouard Philippe en passant par Gabriel Attal. Il y en a quelques-uns qui vont, j'allais dire, oublier un peu leur candidature, qui vont négocier leur truc, Et je pense qu'Édouard Philippe va tenir la corde. Hein. Bon, il y a un truc marrant, c'est que soudainement, Gabriel Attal est devenu hétérosexuel. Moi, je trouve ça magnifique. Hein. C'est-à-dire, il fait toute une campagne à Matignon en disant, j'en parle, si je me permets d'en parler, pourquoi? Parce qu'il dit, je suis, dans son discours de politique générale, hein, je suis le premier ministre, le premier premier ministre homosexuel. Il fait toute sa campagne là-dessus. Il veut nous vendre la GPA maintenant. Et puis, une semaine après, il est avec Jonathan Joyce, je ne sais même pas qui c'est, une chanteuse, je crois.
L'inverse, n'attends, mais
Comment?
l'inverse, mais c'est pareil, dis
Bon,
donc.
voilà. Okay. Jonathan Joyce, oui, enfin, je ne sais plus dans quel ordre, pour montrer. Donc, il est homosexuel à Matignon, mais pour la présidentielle, il est hétérosexuel. Bon, ces gens-là sont prêts à tout pour arriver. Donc, moi, je crois beaucoup aussi à cette hypothèse. Rien n'est véritablement. Il faut bien voir comment fonctionne Macron. Hein. Il a plusieurs fers au feu, Macron, parce que les gens disent qu'il est incontrôlable, etc. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le calcul et qui a toujours trois, quatre hypothèses et qui nous ressort, qui va sortir la meilleure hypothèse pour lui à l'instant idoine. Donc c'est ça
Alors,
fait partie des hypothèses probables et possibles.
on va revenir bien sûr au Rassemblement national. J'aimerais avoir le point de vue d'Harold, ton point de vue, Harold. Si, d'abord, est-ce que tu penses que l'objectif de Macron à court terme même, hein, est une dissolution? Et s'il y a dissolution, est-ce que tu penses que cette fois, un nouveau front républicain verrait le jour? Hein, sachant tout ce qu'on a avalé à l'été 2024, une Elisabeth Borne, Madame 49-3, renommée immédiatement ministre d'un nouveau gouvernement, etc. Tout ça grâce aux voix de la gauche qui avait lutté contre elle pendant la réforme des retraites. Enfin, ce genre d'horreur hein, qui en fait détruisent profondément, voilà, l'envie de participer à ce cirque électoral. Est-ce que tu penses que un nouveau front républicain verrait le jour, ou est-ce que tu penses que cette fois-ci, comme moi je le pense, à vrai dire, je m'avance peut-être, mais comme je le pense, un Premier ministre issu du Rassemblement national serait pour la première fois mis en place?
Moi, je partage ton avis. Je pense que le nouveau Front populaire, non, c'est fini. Hein. Voilà, ça ne marchera pas. Il y a eu trop de choses, même à l'international, enfin, sur Israël, sur Gaza. Ce n'est pas possible, en fait. Les positions sont enfin, il y a de l'irréconciliable, à la fois à l'échelle internationale. Et quand on voit, par exemple, Hollande qui dit « Moi, je ne participe pas à ce que je ne maîtrise pas », cette phrase est assez extraordinaire hein, sur le 10 septembre. Hein, parce que cette phrase, elle va au-delà d'Hollande, hein, il faut bien comprendre. Hein. Un énarque, pourquoi les énarques se mouillent pas ou ils sont un peu lâches en fait. Hein, ils disent oui, mais bon, nous, on a un devoir de réserve, etc. Non, non. Ils veulent maîtriser. Voilà, c'est la maîtrise. La démocratie, c'est la non-maîtrise. Le 10 septembre, on ne maîtrise pas. Et ça, ils détestent ça. Voilà. Et tous ces socialos, tous ces LR, tous ces apparatchiks du système politique français qui sont parfaitement moulés dans les institutions de la Ve, ils sont dans la maîtrise, ils sont dans le calcul, ils sont dans leurs petits intérêts. Je rappelle quand même que c'est des sommes énormes. Hein. On parle de 7 500, 8 000 euros, hein, le ticket à 20 000 avec les attachés parlementaires, c'est des carrières, c'est beaucoup de fric, tout ça, beaucoup, beaucoup de fric. C'est une carrière politique, ce sont des gens qui vivent de ça. Et donc, évidemment, tout ce qu'ils ne maîtrisent pas, ben, c'est pas bon. Ils ne veulent pas de ça. Donc, je pense, pour répondre à ta question, que l'attelage, ça ne marchera pas. Il y a eu trop de trahison. Voilà, c'est pas possible, en fait. Et donc, le gagnant, ben, mécaniquement, ce sera le Rassemblement national. C'est certain. Ce sera un effritement. Alors, le Rassemblement national n'aura pas une majorité, évidemment, absolue, bon, bien sûr. Mais donc, on sera toujours dans une logique minoritaire. Mais c'est pour ça que l'hypothèse, évidemment, d'un Premier ministre d'extrême droite, enfin de RN, et oui, c'est une hypothèse. Mais au-delà de ça, je pense, sincèrement, je pense que Macron, mais il s'en fout. Il s'en fout complètement. Lui, son problème, c'est durer. Son problème, c'est l'UE. Je pense qu'il veut devenir le monarque européen. Voilà, c'est son plan de carrière, son objectif, en fait. Et la France, qu'est-ce qu'il en a à faire de la France? Macron, la France, ça ne l'intéresse pas. Il a mis le pays, il a ravagé le pays. Il a fait éborgner des gens, il a mutilé, il s'en fout, mais il s'en fout, les élections, il s'en fout. C'est un pur cynique, en fait, malin, qui nous voit. Alors c'est vrai que là, il est coincé, quoi. Là, il est un peu, voilà, il est un peu acculé. C'est vrai qu'il est un peu au bout, mais moi, je pense qu'il a encore, et les institutions de la Ve lui donnent la possibilité de gagner du temps, de continuer le pourrissement. Et je pense qu'en effet, je crois que ton hypothèse est très bonne. Il pourrait très bien faire le grand seigneur en disant, ben voyez, finalement je suis démocrate, la démocratie veut ça, et ben on y va. Et d'une certaine façon, oui, ça l'arrange parce que le legs, ce qu'il offre à ce parti qui serait là aux commandes, est catastrophique. Donc,
Il peut avant faire ça, à mon avis.
Pardon, juste une petite parenthèse, un indice de ça aujourd'hui nouveau, Thierry Breton, l'homme de Bruxelles,
Voilà.
a dit ouvertement
C'est ce que j'allais dire.
s'il y a une dissolution et il y a de fortes chances que le Rassemblement national soit le premier parti de l'Assemblée nationale, a-t-il dit, hein, oubliant qu'il y a des groupes, etc. Bon, et il serait légitime de lui donner le pouvoir. Voilà,
Ouais.
l'homme de Bruxelles dit que désormais le temps du RN est venu finalement.
Je pense que avant cette séquence-là, il va pas mettre, je pense, quelqu'un comme Lecornu ou quoi que, on ne sait jamais. Hein, mais pour ça, moi, je parierais plutôt sur une espèce d'ambitieux revanchard un peu insipide. Pour ça, je parlais de Bernard Cazeneuve, parce que ça permettrait à Emmanuel Macron de dire, mais attendez, on a essayé la droite, puis un peu le centre. Bon, ben voilà, moi, je prends quelqu'un de gauche. Ce qui va prendre l'étiquette un peu, c'est un premier ministre socialiste, on peut parler avec la gauche raisonnable, il va gagner encore peut-être 3, 4, 6 mois avec un Cazeneuve. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Il se prépare, un hein, Cazeneuve, il est content. Hein. Il pose, c'est extraordinaire. Parce que là, d'emblée, à froid, après, alors tu me diras, ce n'est pas la première fois qu'il se dédie, mais partir comme ça tout de suite dans une dissolution, début septembre, là, j'y crois pas trop.
Non, moi non plus.
Je pense que ce que tu dis est...
En même temps, ce vote de confiance un 8 septembre est totalement inattendu, improbable. Il sera quand même extrêmement difficile d'enquiller en un an sur trois premiers ministres. Je vais reprendre les propos de Jordan Bardella, hein, donc le premier ministre pressenti, si jamais l'enquête du président et le RN arrivaient en première position. Voilà, c'est la première fois qu'il tient des discours aussi radicaux. Il demande à Macron la dissolution. Il lui demande même une démission pour sortir de l'impasse, alors que le RN, comme on le sait, comme on l'a dit ici de nombreuses fois, couvert Macron, co-géré avec Macron, soutenu les gouvernements Macron, parce qu'on les sentait pas vraiment prêts en fait à arriver aux affaires, peut-être tremblant, hein, effectivement, on va y venir, mais de récupérer une situation aussi dramatique sur tous les fronts économiques et même les indicateurs vitaux du pays. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de préparation du RN? Est-ce que cette fois, vous les sentez, d'après leurs déclarations, hein, j'ai écouté Monsieur Tanguy, Monsieur Bardella, Marine Le Pen elle-même, est-ce que vous les sentez prêts à y aller cette fois?
Ils sont prêts à y aller. Il y a deux choses. Hein. Il y a deux façons de faire dans cet état dans lequel nous sommes actuellement. Il y a une manière de faire jusqu'au boutiste, c'est-à-dire pousser dans ses retranchements Emmanuel Macron, ce que fait Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise. Hein. Il le pousse dans ses retranchements en disant maintenant, la seule solution politique pacifique, il dit, c'est que M. Macron s'en aille. C'est d'une certaine manière aussi, avec son tempérament, ce que fait Jordan Bardella. Le pousser dans ses retranchements. Pourquoi ils font ça? Pour montrer que bah, il n'est plus trop le maître des horloges, le maître du temps, qu'il n'a plus beaucoup de solutions de cordes à son arc, et que la position du prince, comme ça, retiré sur son Aventin, ça marche plus, quoi. Hein. Donc ils disent, bon, là, ça urge, tu le dis toi-même, il faut faire quelque chose. Et puis, à la position des, j'allais dire, un peu des esclaves ataviques, hein, soumis. Dans leur ADN, ça c'est les républicains. Les républicains, ils sont dedans, dehors, ils essaient de coller au basque de M. Macron. Là, il y a le petit Retailleau qui dit, ah, mais c'est 2027, moi, je suis quelqu'un de responsable. Donc, ils le brossent dans le sens du poil, ils lui caressent la couenne, et puis ils disent, oh, on t'aime bien, et puis ils essaient de planter un petit poignard, quoi, à la républicaine. C'est les deux façons de faire. Et aujourd'hui, pour l'instant, de toute façon, personne. N'a les cartes suffisamment en main, parce que c'est vrai que Bayrou a un peu pris tout le monde de court, hein, pour contraindre Emmanuel Macron à une solution. Emmanuel Macron, pour l'instant, il fait le beau, Il a un peu maigri, il est orange, un peu comme Trump, et il dit, mais moi, que les partis politiques prennent leurs responsabilités.
Il disait ça, il disait ça il y a
Ah,
un an. Il disait
il
ça il y
disait
a un
ça il
an,
y a
déjà.
un an, moi, j'ai pas à rentrer là-dedans. Et pour l'instant, ça marche, parce qu'il a les médias avec lui, qui commencent un peu à vaciller, mais très peu, en fait, encore. Hein. On voit bien que là aussi, il y a une espèce d'antinomie, et qu'il y a une entente assez ténue entre le Rassemblement national, la Macronie et LR. Et donc, d'une certaine manière, selon la sensibilité des différentes chaînes d'info, ils soutiennent quand même ce bloc qui ne dit pas son nom, qui est assez solidaire. Hein. Donc voilà, le RN essaie un peu d'extrapoler, de pousser Macron à la démission. Le signe faible qui a été donné, c'est effectivement des gens comme Thierry Breton, hein, qui viennent corroborer, qui viennent finalement normaliser le fait d'appeler quelqu'un à Matignon qui soit issu du Rassemblement national. Ça, c'est nouveau dans la donne. Hein. C'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu jusqu'ici dans le discours de Cacic qui représente la social-démocratie. C'est quand
C'est
même.
un peu la position empoisonnée quand même, parce que le calcul, il y a en France un puissant mouvement dégagiste.
Fait.
D'ailleurs, enfin, c'est tout l'enjeu du 10 septembre.
Très
Pourquoi?
bien.
Parce qu'il y a des élus qui se disent, si je vote pas, voilà, si je donne la confiance à Bayrou, mais je vais me faire dégager. Enfin, dans les zones rurales ou dans les zones populaires, je vais me faire exploser. Donc en fait, si je ne donne pas la confiance et qu'après, derrière, il y a une dissolution, il y a des législatives, je suis mort politiquement. Donc là, il y a vraiment des enjeux qui sont assez complexes. Si le RN prend le poste, enfin, qui que ce soit d'ailleurs, de Premier ministre, dans la situation de dégagisme anti-Macron qui est celle d'aujourd'hui, il y aura quand même compromission. Donc est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à précipiter les élections présidentielles? C'est là qu'il y a une vraie stratégie. Peut-être qu'ils se préparent à ça en évitant la case Premier ministre et co-gestion du désastre. Parce qu'en fait, c'est quand même ça, quoi.
Alors, tu as
Mais
raison, je pense que
ah. On
là,
va
cette
passer
chose.
à la question du 10 septembre et d'une éventuelle élection présidentielle anticipée. Mais j'aimerais qu'on reste encore un petit moment sur cette question et qu'on prenne quelques questions du chat. Et notamment, ces deux-là, je voulais soumettre un rôle d'éditier. Macron peut-il sortir à un moment donné l'article 16 hein, voilà. Qui fait frémir un certain monde militant et qui lui donnerait donc les pleins pouvoirs, avec voilà l'horizon de la guerre bon, et tout ce qui est agité depuis des mois, on le sait. Hein. Seconde question, Macron peut-il une nouvelle fois s'asseoir sur le résultat d'une élection législative? Et d'ailleurs, le PS n'a-t-il pas déjà un deal prêt avec Macron pour la suite? Je
Alors,
voulais
sur la première question, l'article 16, évidemment, lui-même l'a précisé sans le préciser, hein, c'est le en même temps macroniste. Il a dit, enfin, il a fait dire par son entourage, hein, comme le font les grands hommes, le président de la République n'entend pas se priver d'un avantage constitutionnel. Ça veut tout dire et rien dire. Ça veut dire que oui, si il n'entend pas démissionner avant son terme, hein, il a reçu mandat du peuple. Pour 5 ans, donc il présidera jusqu'au bout. Il dissoudra ou pas, parce que c'est dans ses prérogatives. Et s'il faut faire l'article 16, il mettra en branle l'article 16. Comment il peut le justifier? Ben, on voit comment il fait Macron, hein. Il avance un peu dans toutes les directions, c'est-à-dire il creuse un couloir et il met la petite terre et il pousse. Et là, il l'a fait aujourd'hui. Dernier larmoyant en disant, oh, vous avez vu encore 650, 649 drones envoyés par l'armée russe sous les pauvres aux Ukrainiens, il y a eu 2 morts, 4 morts. C'est bien la preuve qu'ils ne veulent pas la paix. Et il nourrit ce truc-là. Il nourrit la dette. Vous vous rendez compte, la dette, c'est irresponsable, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, oui, l'article 16 est tout à fait possible. Il peut très bien dire aussi, on parle de. Essentiellement, ça sera l'Ukraine et la Russie. Hein. Ça, c'est le point fort. Mais comme il y a cette question, il peut être encore plus retors, faire un double détente. Il le fera, à mon avis. C'est pour ce qui concerne la France insoumise. et Gaza. Hein. Il dira, moi, je n'ai pas attendu la France insoumise pour soutenir la reconnaissance d'un État, hein, en l'occurrence la Palestine, mais je ne laisserai pas passer l'antisémitisme. Voilà. Il peut jouer sur tous ces tableaux-là en disant, bon, maintenant, c'est tellement le bordel, article 16, je prends les pleins pouvoirs, parce que les partis politiques auxquels j'ai demandé de prendre leur responsabilité n'ont pas pris leur responsabilité, c'est pas de mon fait, hein. Il n'y a pas de majorité, ce sont les gens qui votent. Moi, je respecte la démocratie. Il peut très bien la jouer comme ça. Donc, c'est tout à fait possible. Deuxième question, je réponds très rapidement, puis je laisse la parole y répondre. C'est cette question de est-ce qu'il peut s'asseoir sur le résultat? Ben, il peut s'asseoir sur tout, Harold l'a dit. Il peut s'asseoir, se lever, se rasseoir, aller chercher une bière, faire un coup de jet ski, se rasseoir. Il s'en moque. Il s'est moqué des élections européennes, il s'est moqué des législatives. Il fait ce qu'il veut. Parce que, de toute façon, il a des médias qui lui servent la soupe. Personne ne lui a jamais rien dit. Et comme les gens ont été un peu matés, on y viendra dans un deuxième temps, parce que, évidemment, tout ce qu'on élabore comme hypothèse, est-ce que le 10 septembre sera un catalyseur ou une espèce de voie sans issue, c'est ça qui déterminera la préscience d'un ou l'autre, d'un scénario ou d'un autre scénario. D'un scénario A ou d'un scénario B ou d'un scénario C. Voilà mon avis.
Bah, tu as raison d'en parler. C'était même notre sujet principal hein, ce soir. Hein. Nous avions titré cette émission La révolte ou la liquidation autour du 10 septembre. Mais voilà, les événements se sont précipités. Peut-être d'ailleurs, on va y revenir, en raison de la peur du pouvoir du 10 septembre. Mais Harold, ton sentiment donc, sur les questions abordées? Cette espèce d'hypothèse du pire maximaliste des pleins pouvoirs, est-ce que c'est crédible quand on a une impopularité? Je sais bien hein, qu'elle date pas d'hier, hein, que le pays s'est installé dans cette habitude, mais une impopularité aussi importante, et quand on a quand même l'historique d'Emmanuel Macron, à savoir le souvenir de l'hiver gilet jaune de 2018-2019 qui quand même vous mord la nuque.
Bah, déjà, le premier constat, c'est que si on avait encore besoin d'arguments, la Ve République donne à un homme, en l'occurrence Emmanuel Macron, la capacité de jouir indéfiniment et de façon totalement irresponsable sur le dos des Français. Donc ça, c'est le premier problème. On est dans une crise institutionnelle profonde. La Ve, c'est fini, en fait. Elle est en état de coma dépassé. Et Macron, c'est le coma dépassé de la Ve République. Il a les pouvoirs, il a les pleins pouvoirs, la Constitution lui donne des pouvoirs exorbitants, et ce pouvoir-là fait partie. Alors, à mon avis, ça ne peut arriver que si il y a véritablement une explosion en termes d'affrontement, comment dire, dans la rue. Voilà, je vois pas d'autres solutions. Si tu fais référence aux gilets jaunes, c'est à double tranchant, parce que d'un côté, il y a la peur. On sait très bien qu'ils sont surarmés. On va pas revenir sur les achats, 56 millions d'euros d'achats de matériel, tous ces camions, les Centaures, etc. Donc ils sont surarmés. On sait.
Ils ont appris de cet
Voilà,
hiver,
ils ont appris,
les a terrifiés.
voilà, ils ont appris, mais on a appris aussi parce que on a appris qu'il fallait être plus nombreux, qu'il fallait être plus soudés, et on sait qu'ils sont capables de ça. Donc ça change un peu la donne aussi sur le type d'action, sur ce qu'on pourra faire ou pas, sur l'anticipation des actions menées. Voilà, de ne pas partir la fleur au fusil pour se faire défoncer dans deux, trois boulevards à Paris fermés, cadenassés par la police. Peut-être y aura évidemment une réflexion stratégique en amont qui sera plus fine en tout cas, ou plus adaptée à la violence de l'État qui est en face de nous. Donc ça, c'est le premier point. Par rapport à la réponse, la deuxième question, tu avais pris deux questions.
Est-ce que Macron peut à nouveau s'asseoir sur le résultat des urnes comme il l'a fait en toute impunité à l'été 2024 et avec voilà,
Macron est là.
l'appui des médias dominants?
Macron est là pour s'asseoir sur la France. Il a été mis en place pour ça. On l'a vu dès 2017. Donc oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Didier. Ce qui est effrayant, en fait, par rapport aux médias officiels, j'aime bien la formule de Didier, c'est ça, c'est des canaux officiels de l'Élysée, hein, c'est ni plus ni moins. J'écoutais encore les fameux informés sur France Info. Il faut écouter ces gens, hein, c'est absolument extraordinaire. Hein. C'est la parole, en fait, c'est du debunking officiel de l'Élysée. Et donc, il y a tout un enfumage politique autour de Bayrou, autour de tout ça, des espèces de micro-discussions complètement byzantines, en fait, autour de ça, pour masquer le principal responsable. Parce que vous lisez voilà, les journaux aujourd'hui, Macron, on ne parle pas de Macron. C'est-à-dire que c'est celui qui vous met dans la merde, au centre de la merde, et c'est lui dont on ne parle pas. Et on dit, bah oui, mais il va y avoir ceci, cela, on fait des hypothèses. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on a pris ce titre-là. Là, maintenant, est-ce qu'on va au bout de ce quinquennat ou est-ce qu'on lui rentre dedans? Et lui rentrer dedans, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire réfléchir aux objectifs. Parce qu'on ne pourra pas mettre un terme à ce régime qui est la Ve République, à cette monarchie présidentielle, parlementaire de moins en moins, sans un affrontement. On le sait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, c'est pas des gens comme Hollande, Faure, non, mais non, c'est pas eux qui vont faire ce travail-là. Hein, je disais, les énarques, ils ne font pas ce qu'ils ne maîtrisent pas.
Mais c'est
Nous,
exactement ça.
on essaie de trouver une force politique. Pourquoi? Une force collective? Parce que moi, j'ai pas peur de ce que je maîtrise pas. Justement, c'est là où on est tout à fait différent. Moi, je veux ne pas maîtriser. Pour ne pas mépriser d'ailleurs, ne pas maîtriser le mouvement, accompagner et renforcer un mouvement qui soit subversif, c'est justement une dépossession de la maîtrise. Mais Hollande, tous ces gens-là qui vivent de la politique depuis 40 ans, mais c'est l'horreur pour eux. Ça s'appelle une révolution d'une certaine façon, oui. Alors bien sûr, le mot peut paraître comme ça romantique, un peu délirant, mais il faut se rendre ingouvernable au sens où il faut leur dire, on n'ira pas au bout de votre projet de maîtrise et de soumission. C'est ça la question.
Il y a quelque chose qu'on a appris, pour très rapidement, c'est qu'effectivement, tout ce qu'a dit Harold, j'y souscris, mais que finalement, là, les gens en ont ras-le-bol quand même. Hein. Ça fait 8 ans de Macron. Il y a beaucoup de gens, hein, on le voit quand on fait nos émissions, quand on parle dans la rue. Moi, beaucoup de gens m'ont parlé cet été. Ils peuvent même plus prononcer le nom de Macron, quoi. Ils peuvent même plus l'entendre, le voir en peinture. Ça, c'est quand même une détestation profonde. Et puis, face à ça, il y a des mouvements un peu désespérés, pitoyables, comme c'est Nicolas qui paye. En fait, c'est Éric Tegner, hein, de Frontières, qui a déposé la marque. Hein. Et ben, au début, bon, moi je suis un entrepreneur aussi, hein, comme toi, Aude. Hein. Finalement, on dit, bon, est-ce que nous, on paye, on paye, on paye? Bon, nous, on le voit du point de vue, on paye, on veut. Moi, je ne dis pas que je ne veux pas payer. Hein. Je dis que ben, j'aimerais bien quand même des services publics qui fonctionnent, des classes qui ne soient pas surchargées, des hôpitaux où on ne meurt pas dans les couloirs, ben, des choses assez simples. Hein. Et d'autres disent, non, il y a trop d'État, il faut plus de services publics, etc. Bon. Les deux peuvent se défendre, pourquoi pas. On peut s'affronter sur le sujet, mais on voit bien que bah, il fallait pas ça, il fallait pas la gauche, il fallait pas les drapeaux palestiniens ou ceux qui soutiennent la cause, il fallait pas mercredi parce que mercredi ils ont piscine où ils travaillent. Le jeudi, il faut se remettre du mercredi. Donc finalement, c'est les dernières tentatives d'un pouvoir aux abois qui met comme ça un petit peu des faux mouvements pour que on continue encore un peu pourvu que ça dure. Mais pourvu que ça dure, c'est fini. Et je suis d'accord. C'est pour ça que je dis souvent, je ne crois plus à une solution politique. Et nous, notre travail, c'est de faire accepter au plus grand nombre, parce que tu l'as dit, Aude, c'est combien de divisions au bout du bout, c'est la seule chose qui compte. Combien de gens vont pouvoir se convertir au réalisme, sachant qu'ils vont perdre des choses. Ils vont perdre du pouvoir d'achat, ils vont peut-être
Des
perdre
choses.
un membre, il va y avoir des divorces, il va y avoir des drames familiaux, professionnels, financiers. On en est là aujourd'hui. Donc croire que on va tout régler avec Cazeneuve ou des gens comme ça, ou Hollande, c'est une illusion.
Et on perd déjà tout, c'est-à-dire qu'on perd les jours fériés, bon, c'est une chose, mais les médicaments qui seront déremboursés, déjà les arrêts maladie, 90%, enfin, ce sont des gens qui sont capables de donner des centaines de milliards sans contrepartie hein, à des actionnaires, parce qu'en fait, c'est du transfert d'argent public sur les dividendes, hein, sur l'actionnariat, c'est tout, hein, c'est une saignée sociale au profit d'actionnaires, et ces gens sont capables de dérembourser, de taper sur les pauvres, hein, de saigner, ils vont aller où dans la saignée? Il y a un moment, il faut dire stop, quoi, il faut dire non, 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 nous, on veut plus, voilà, on veut plus ça, c'est le stop,
Je
voilà.
pense qu'on est très attendu. On est très attendu ce soir sur la question du 10 septembre, hein. Évidemment. Et on est très attendu. Pourquoi? Parce que derrière le 10 septembre, on a sorti aujourd'hui un article sur le site de QG sur la question, hein. On a fait le point avec des figures gilets jaunes, avec des figures de révolution permanente, avec des figures de la CGT. Sur le 10 septembre, sur son potentiel, sur ce qu'il y a à attendre, sur les illusions à ne pas se faire et voilà aussi l'enthousiasme à développer autour de cette date. Donc on a désormais, depuis la rentrée de QG, une idée un petit peu plus claire hein, de ce qui va se passer. Je renvoie d'ailleurs à l'article de Thibaut Combes sur notre site ce soir, QG.media. Est-ce que vous pensez que le 10 septembre est une date qui peut prendre? Je le disais en introduction tout à l'heure, les gens ne sont pas plus que nous, ne sont dupes après tant de luttes, après tant d'échecs, après tant d'efforts, après tant d'espoirs déçus. Les gens ne se racontent pas d'histoire. Néanmoins, les difficultés économiques rencontrées par nos concitoyens et la désespérance est telle que cette date avait repris corps au cours de l'été via toutes sortes de groupes, de réseaux sociaux, Locontou, Indignons-nous, etc. Est-ce que vous y croyez ce soir?
On ne va pas dire qu'on n'y croit pas. C'est-à-dire qu'on n'est ni de la CFDT, ni du Parti socialiste. Hein. Donc, moi, je ne crois que ce que je fais, c'est même pas ce que je vois. Je crois à la dynamique. Je crois à la roue hégélienne, puisque on a un bon professeur de philosophie. La dialectique de l'histoire qui va créer du sens et qui va broyer tout le reste. C'est qu'est-ce qu'on aura la capacité à broyer, qu'est-ce qu'on est prêt à broyer et qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner pour ça. Je ne vais pas lancer des mots d'ordre révolutionnaires, on est des gens raisonnables, intelligents, mais on a évidemment plusieurs niveaux de langage et chacun comprendra ce qu'on a à lui dire ce soir. C'est le moment de prendre nos responsabilités. Si on pense qu'on va défiler avec des calicots derrière une camionnette avec un beau t-shirt et des ballons et dire faire avec les rosies des petites chorégraphies bien sympathiques, on se met le doigt dans l'œil et c'est fini. Moi, de toute façon, je ne participerai plus à ce genre de farce, hein. Il faut des actions déterminées, il faut des actions musclées, il faut des actions virulentes, virulentes, il faut des actions fortes. Chacun comprendra ce que j'ai à dire. Je n'irai pas plus loin pour pas qu'on ait de problème.
De toute façon,
Chacun a compris hein, ce qu'il faut faire. Hein. Il faut tout
ouais.
bloquer.
On ne peut pas, de toute façon, enfin, c'est toujours le même problème avec les mouvements sociaux. Aude, tu l'as analysé avec des invités à plusieurs reprises. On ne comprend que ce qu'on fait. Voilà, on ne comprend que ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre un mouvement social sans le faire. Donc il faut participer, il faut voir ce qui se passe, il faut voir sa dynamique, il faut évidemment la nourrir. Et là, on comprend ce qui se passe. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un passage, je le répète, qui est un passage obligé de notre histoire politique. Voilà. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas un lapsus, ce n'est pas un hiatus dans notre histoire politique. C'est un moment obligé, vu l'état des institutions, vu l'état du centralisme français et vu l'état, je dirais, de la mainmise d'une technocratie politique aujourd'hui qui est profondément antidémocrate et qui méprise les gens et qui méprise le peuple, il n'y a pas d'autre issue. De toute façon, ça arrivera. Voilà, la catalyse autour d'un mouvement comme ça arrivera. Il sera plus ou moins fort, il sera plus ou moins violent, mais de toute façon, ça arrivera. Ça ne peut pas ne pas arriver, en fait. C'est là où je te rejoins sur la dialectique de l'histoire. Et je le dis dans notre pays. Voilà, parce qu'il y a toute une, je dirais, toute une
Et
cause
peut-être
parmi.
plus.
Et les gens le savent. Au fond, tu sais, Didier, il y a beaucoup de gens, de Français, qui peut-être, oui, n'iront pas le 10 septembre, ou en tout cas, regarderont ça d'un œil très distant, mais ils savent, en fait, que c'est un passage obligé. Voilà, c'est tout. Et à partir du moment où ça devient une nécessité de notre histoire politique, ça devient vrai. Voilà, la vérité, elle est là, elle émerge de la nécessité historique qu'il y a de passer par cette confrontation. Et après, la responsabilité, ce sera les politiques qui sont en face. Est-ce qu'ils sont responsables? Est-ce qu'ils ont un sens des responsabilités ou pas? Ils accusent les Français d'être irresponsables. Mais quelqu'un qui est prêt à prendre le risque, hein, d'une confrontation violente, brutale, pendant des semaines et des mois, avec des risques de mutilation, il y en aura, et des morts peut-être, parce que de toute façon, ça ne peut aller que crescendo, eh bien, il est foncièrement irresponsable. On ne peut pas laisser les clés d'un État à des gens qui créent cette situation-là. C'est absolument aberrant, en fait. Voilà.
Mais la
Donc.
politique, effectivement, de toute façon, depuis, on sait ça depuis l'Antiquité, que ce soit Sparte ou que ce soit Athènes, il y a eu différentes manières de le régler, c'est toujours un rapport de force. Et à un moment, de toute façon, c'est celui qui a la plus grosse armée et qui est le plus déterminé. Et de toute façon, même dans les guerres modernes et même dans les guerres contemporaines, c'est celui qui a une industrie, une capacité à nourrir son industrie, à faire des pièces d'artillerie. À fabriquer des drones, à fabriquer des munitions qui gagnent la guerre et qui a le plus de soldats. C'est une loi naturelle et elle est éternelle, hein, de toute façon. De l'art de la guerre en passant par tous les traités différents et variés. Bon, donc je suis d'accord. En plus, on est un pays de révolution. On a fêté et on fête toujours le 14 juillet. On a fêté le bicentenaire de la Révolution. Nos héros, qui sont nos héros? Robespierre, Danton, De Gaulle, Jean Moulin, Napoléon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas des gardes-chiourme, c'est pas des syndicats de syndics de copropriété, hein, comme les Monsieur Retailleau, où ils nous expliquent qu'il va falloir changer, réparer la chasse.
Ouais.
Bon, c'est un peuple révolutionnaire. Nous sommes un peuple révolutionnaire.
Le
Ce n'est
problème qu'on va
pas.
avoir, je suis tout à fait d'accord, Didier, mais le problème qu'on va avoir, c'est la question idéologique. C'est-à-dire que comment, parce que ça c'est très important, quel va être le liant, le ciment idéologique qui va faire qu'on peut s'agréger?
Alors,
Le risque,
le point principal.
c'est le grumble, quoi, tu vois, c'est-à-dire que c'est que ça s'effiloge, ça part en petits morceaux corporatistes, et ça, c'est pas bon. Il nous faut vraiment une vraie ligne idéologique, et pour moi, la ligne idéologique, c'est la démocratie. Ça, c'est absolument central. On n'en peut plus, en fait, de cette oligarchie, de ces gens qui décident, et en plus de ça, qui tiennent un discours culpabilisant sur les Français. Vous êtes responsable de la dette, etc. C'est délirant, hein, c'est délirant. C'est une espèce de néo-féodalité avec une liturgie. Qui est une sorte de, voilà, de sécularisation en fait de la culpabilité religieuse, hein. On est totalement là-dedans. On a un pouvoir, on est les sachants, on est des élus, hein, on est des élus au sens plein du terme, et vous êtes des gueux irresponsables. Donc, pour sortir de ça, il faut rentrer dans une conflictualité politique. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut dire. Moi, je suis gêné par les récupérations politiques. C'est pas un mouvement qui doit être récupéré par l'un ou par l'autre. Non, non, non. C'est l'expression collective d'un changement véritablement de régime. Nous voulons de la démocratie. Nous n'en pouvons plus,
Là,
en
c'est
fait.
le point, si vous me permettez, les amis, je pense que c'est le point clé qui est attendu par tout le monde. Comment on a échoué avec les Gilets jaunes? On a échoué parce qu'on nous a dit la
Il
récupération.
y a pas mal d'hypothèses possibles, hein.
Ouais, pas mal d'hypothèses, mais il y en a une qui est sur laquelle on peut tous se mettre d'accord, c'est que on n'a pas réglé en amont et pendant des problèmes stratégiques, des questions stratégiques. C'est-à-dire qu'on a agrégé, agrégé, agrégé. Il y a bon, la question du chef et du gazeux qui était un avantage, qui s'est retrouvé être un inconvénient, on est tous d'accord là-dessus. Mais ce qu'on dit être de la récupération, en fait, ce n'est pas véritablement de la récupération, c'est quelque chose qui est arrivé, comme LFI par exemple, à contre-temps, hein, parce qu'on n'était pas au clair au départ. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer d'être clair, on va faire de la stratégie, il faut se mettre d'accord, un, sur la démocratie, deux, sur la souveraineté retrouvée ou à retrouver, hein, parce que c'est directement relié, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'Europe? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'OTAN? Ces questions-là, comment on retrouve des marges de manœuvre? À mon avis, au sein de l'Union européenne, c'est mission impossible. Et trois, tout ce qui est régalien et services publics.
Non,
Ça,
le pacte social, le
voilà
pacte
la
social.
redistribution des fruits de nos efforts. Il faut mettre à la poubelle, et je le dis, comme disent les politiques, en responsabilité, j'adore cette expression, en responsabilité. Je le dis parce que c'est important pour nous tous. Il va falloir mettre de côté un certain nombre de questions. On dit on n'en parle pas, hein. L'immigration, le rapport à tout ça, hein, aux Arabes, aux Noirs, on n'en parle pas. On pourra s'affronter dans un deuxième temps sur qu'est-ce qu'être français, la francité, est-ce que c'est la carte, le territoire, l'idée, comment on devient français. Si on pollue, et là pour le front, on a le droit de faire de la politique aussi, si on pollue notre mouvement par ces questions, je vais dire, allez, identitaires, pour dire un gros mot, on se condamne a priori.
Ce qui est la stratégie du Nicolas Quippé, hein, qui est quand même
Bien sûr.
avec derrière une tonalité raciste. Hein, parce que
Elle est
Amel
faite,
P, Lucia P, hein,
elle est
c'est le
faite
petit
pour.
bourgeois. Non, mais il faut le dire, hein, c'est le petit bourgeois qui utilise
Bien
l'institution
sûr.
scolaire publique et les hôpitaux, hein, qui nous sort. En fait, c'est de la sauce identitaire derrière, hein, le Nicolas Quippé. Hein, ce n'est pas une
Non, non.
critique de la
Alors,
gageure.
lui, c'est autre chose. Je dirais ce que je disais en amont. Le Nicolas Quippé, c'est une tentative désespérée de faire échouer le mouvement pour taper sur la gauche. Et
Évidemment.
en disant, ce n'est que ça, Nicolas Quippé. Mais il y a aussi des gens qui sont souverainistes, qui sont plus à droite et qui ont un rapport différent à l'immigration, qui étaient au début des Gilets jaunes, hein, qui étaient très, très, très nombreux. Ceux-là, il ne faut pas les braquer. Parce que ce n'est pas incompatible. Il y aura des problèmes derrière. Mais
Je pense, si je peux me permettre, ça avait été intuitivement compris par les Gilets jaunes, le fait pour les gens qui, comme nous, sommes allés physiquement sur les ronds-points ou sur les événements, les actes à Paris, c'est vraiment, ce sont des discussions qui n'émergeaient quasiment jamais. De nombreux camarades autour de moi peuvent en témoigner. Ça n'était absolument pas les sujets
on en
dont
rigolait, les certains en plaisantaient en disant, moi, toi,
les
t'es un
gens
peu.
avaient l'intelligence humaine spontanée de laisser ça de côté, parce que l'idée qui était très présente dans les esprits, c'était de s'unir. Et tout le monde savait que pour s'unir, on ne pouvait pas appuyer sur ces leviers-là. Et ceux qui appuient aujourd'hui, vous citez ce hashtag Nicolas Kippé, etc., sur ces leviers-là, sont ceux qui veulent que nous nous divisions et que nous
Bien
restions
sûr.
séparés et que nous restions impuissants.
Oui,
Alors
avec aussi,
que
ouais.
nous sommes le nombre.
Et
Et ça, c'est difficile.
avec aussi juste un point, mais avec aussi quand même un point, à mon avis, intéressant, un peu néoclanique. Nicolas Quippé, c'est l'anti-république sociale. C'est-à-dire, en fait, c'est mes copains, quoi. C'est moi et mes copains, mes potes, mon groupe de potes, etc. C'est des clans, en fait. Voilà, c'est la construction de clans. Et cette construction de clans va très bien avec le modèle libertarien. Un chef, une espèce de liberté où tu payes et tu as le service, et avec un démembrement du commun. Donc c'est tout à fait ça. Moi, je pense que Nicolas Quippé, c'est le démembrement de la République sociale, c'est ça. Et les Gilets jaunes, ils avaient vraiment cette réflexion légitimiste, institutionnelle profonde sur la légitimité des institutions démocratiques. Ça, c'est les débats qu'on avait. Ça, c'est les débats qu'on avait, pas de savoir qui paie. En fait, c'était pas l'objet, quoi.
Non, mais pas mieux. Moi, mais quelque part, ça, c'est vraiment un point qui m'inquiète, comme m'inquiète M. Retailleau, puisque c'est comme ce qu'on apprend en psychanalyse aussi, hein, les forces néfastes, les forces du mal, la violence, les pulsions de mort, les rumeurs, les saloperies, c'est toujours plus facile à propager. Tu veux, pour propager une saloperie, il faut un, et pour la combattre, il faut 100. Et donc, ça, Retailleau, en disant des choses simples, comme Nicolas qui paye, ouais, c'est encore Nicolas qui va payer, regardez, les Arabes, c'est Nicolas qui va payer, le chômeur, c'est Nicolas qui va payer, votre bagnole est en panne, c'est facile, c'est de la démagogie, mais ça fonctionne, parce que les gens sont dans un pouvoir d'achat qui est vraiment massacré, qui est amoindri, qui est difficile, ils ne vont plus au restaurant, avant c'était le 10 du mois qu'ils étaient à découvert, maintenant c'est le 5, et puis... parfois même avant. Et donc, tout ça, ça porte dans le public. Et je ne voudrais pas que les gens s'accrochent à ces aspérités qui vont en fait les couper du mouvement social et qui vont nous faire échouer. Ça, il faut vraiment, mais j'ai le plus grand mal, hein, parce que je débat beaucoup, notamment sur les réseaux, sur cette question-là, avec Nicolas Kippé. Alors j'arrive un peu à convaincre, mais c'est beaucoup d'énergie pour convaincre peu de gens, quoi. Et c'est ça, on aura du mal, hein. Il va falloir le répéter, le répéter, le répéter. Il va falloir agréger d'autres mouvements, mais ceux qui sont trop comme ça, quand même, qu'on voit arriver de loin, il faut les écarter tout de suite, hein, tout de
Alors,
suite.
dans le monde militant aujourd'hui, hein, beaucoup de gens considèrent et disent que les annonces faites justement par Bayrou, hein, et ce vote anticipé du 8 septembre visent à dégonfler l'appel du 10 septembre qui, dit-on, commençait à sérieusement inquiéter les renseignements et le pouvoir avec un fort parfum de gilet jaune. Est-ce que ça vous, est-ce que cette stratégie, voilà, est-ce que cette stratégie vous semble envisageable, sachant que on a eu Anas Kazib, de notre camarade, hein, de Révolution permanente, qui était bien sûr au cœur de la lutte contre la réforme des retraites et aussi qui avait rejoint les Gilets jaunes, et qui nous informe que, depuis que Bayrou finalement a mis le genou à terre, parce que c'est comme ça que c'est interprété dans ce monde-là, eh bien de plus en plus de travailleurs et de camarades rejoignent l'idée d'un mouvement de grève massif. Quelles sont vos informations et quel est votre ressenti à ce sujet?
Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est le genou à terre, l'image est juste. Les gens qui vont participer, qui se mettront en grève ou qui feront des actions, je crois que Bayrou, ce n'est pas leur problème.
C'est ça.
Bayrou, ce n'est pas leur problème. Et ce n'est pas leur histoire non plus. En face, c'est Macron, certes, c'est l'oligarchie, c'est le mépris social. Hein, il faut quand même pas oublier tous ces épisodes, parce que ces épisodes, par exemple, Oudéa Castéra, hein, qui était à 400 ou 500 000 euros à la Ligue de tennis, qui se baigne dans la merde à Paris, qui fait la morale aux gueux, hein, qui insulte l'école publique, tout ça, évidemment, dans les médias, ça passe et on passe à autre chose. Sauf que ça s'empile, et on le voit sur les boucles, il y a des choses qui ressortent de la Macronie. Ça fait 7 ans, on a les archives, les copains, on a toutes les archives, on a tout noté. On a le verbatim du mépris social de la Macronie. C'est ça qu'on va leur mettre sous le nez. Et les gens, ils l'ont ça en tête. Donc moi, je pense que là où je suis assez d'accord, c'est que non, non, le petit calcul politique qui consiste, on va vous donner la tête de Bayrou, non, non, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut Macron. Et derrière Macron, un changement institutionnel. Parce que, et c'est là que ça peut catalyser ou pas. Et c'est ça qui sera difficile. Parce que je pense que le ressentiment est mauvais conseiller en politique. Il faut quand même se battre, certes, pour nos intérêts, évidemment, et je ne suis pas contre les intérêts corporeux parce qu'on est tous, on part de notre situation de travail, mais après, il faut passer l'étage au-dessus, et l'étage au-dessus, il faut prendre de la hauteur, c'est-à-dire qu'il faut viser réellement la nature même des politiques publiques. Hein, il faut interroger le CICE, il faut interroger ces aides d'État absolument dans des proportions monstrueuses et se dire que la personne qui peut marcher, comme disait Vautrin, et qui prend un taxi, hein, en sortant de l'hôpital, et ça c'est vraiment la honte pour la France, parce que tu peux marcher en sortant de ton opération du genou, mais tu prends un taxi, c'est ça qui ruine le pays. Mais de qui se moque-t-on? Hein, alors qu'on donne des centaines de milliards à des actionnaires qui se gavent, alors que Auchan, hein, il y a quelques années, a licencié plus de 3 000 personnes avec des records énormes. Ils ont eu 600 millions, je crois, d'aides, enfin, des sommes astronomiques. Donc tout ça doit être mis au cœur. Et c'est sûr que le petit ressentiment du voisin qui gagne 300, 400 euros de plus que moi, là, on ne va pas y arriver. Donc il va falloir prendre de la hauteur sur les revendications, mais en sachant que de toute façon, pour moi, je le redis, ce moment de conflictualité sociale, c'est un passage obligé. On ne peut pas ne pas y passer.
C'est exactement ça. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a différentes étapes. La première étape, c'est de tout bloquer pour exiger un changement fondamental et le départ de Monsieur Macron. Mais il va s'ouvrir après ça une période qui est vraiment clé, qui est vraiment, et c'est là où il faudra prendre la hauteur. Moi, j'ai un peu réfléchi au sujet. Je me suis dit, il faudrait une espèce de comité, hein, des personnes issues qui ont déjà eu un parcours, hein, qui ont de l'expérience, des femmes, des hommes qui ne sont pas politisés au premier niveau, mais qui sont incontestables, qui ont un peu une habitude qui ont de la hauteur de vue, etc., qui devront, c'est presque les gardiens de la révolution iranienne, j'exagère, mais qui devront veiller à ce que, comme cette république est morte, il ne faut pas simplement que M. Macron parte et qu'on revote dans le cadre de la cinquième, dans un calendrier inversé, et qu'on ait M. Ciotti, M. Bardella. Ça ne marchera pas. Donc, première étape, il faut enquister le 10 septembre dans le long terme et exiger le départ de M. Macron, en tout cas le forcer à faire quelque chose de fort qui ne soit pas une simple dissolution. Deuxième étape, réfléchir, mettre en place un comité de salut public, appelons-le comme on veut, pour mettre en place, appelons la Sixième République s'il faut, ou autre chose, ou constituante, parce qu'il va falloir travailler plusieurs mois sur une constituante en introduisant du RIC, du référendum plus large, de la démocratie participative, moins de représentation, avec toute une réflexion évidente sur la gestion du pays, le millefeuille administratif. Il y a au moins deux niveaux de décision qui sont superfétatoires. Il y a 565 000 élus, il en faudrait, en comptant les nationaux et les locaux, il en faudrait 200 000, il faudrait 100 députés. Qu'est-ce qu'on fait du Sénat? Sortir de l'Europe, la Commission européenne, les 1 000 comités et les 30 comités Théodule et autres autorités administratives indépendantes, et toute la fonction publique territoriale. On ne pourra pas faire l'économie. C'est ça qui compte. C'est d'abord la démocratie. Comment on fait vivre cette démocratie et comment on s'organise et comment on va pouvoir influer sur notre vie quotidienne et pour avoir des choix qui soient suivis des faits. C'est tout ça qui est en train de se jouer parce que la Ve République a été fondée par un homme et pour un homme en fonction de situation, une situation historique et politique bien particulière. Aujourd'hui, on n'a plus le personnel adéquat comme chez là et en tout cas à la hauteur, mais on n'a surtout plus. Cette république, elle est exsangue, elle est finie, elle ne peut plus se nourrir d'elle-même. Donc, il faut passer à autre chose. C'est tout ça qu'il va falloir être capable de faire passer comme idée. C'était bien la campagne présidentielle de Mélenchon la dernière. Après, bon, ils sont partis en vrille et sur autre chose, mais bon, sur la constituante, la sixième république, plus personne n'en parle. Mais c'était tout ce processus qui était hyper important, qui doit être au le cœur de notre action et de notre réflexion. On ne t'entend plus. Aude.
Ouais, là, Didier, tu parles d'un éventuel départ d'Emmanuel Macron pour s'interroger sur les formes concrètes que ça pourrait prendre. Seule la France insoumise aujourd'hui demande la destitution, hein, du président de la République. Alors, je vous pose très simplement la question. Est-ce que cette proposition a la moindre chance d'aboutir? Est-ce que c'est, comme le dit un politiste, comme il l'a dit chez nous hier soir, Rémi Lefebvre? Parce que c'est du simple affichage symbolique très important à ses yeux, hein, mais quand même de l'affichage. Ou est-ce que vraiment une présidentielle anticipée peut voir le jour?
En l'état, pour moi, en l'état du rapport, enfin, vu le rapport de force politique actuel et la façon dont finalement il y a une mainmise, on va dire, des médias officiels et une propagande pro-Macron qui est quand même encore très puissante, pour moi, c'est de l'affichage symbolique. Ça ne peut advenir que si il y a un mouvement incontrôlable, en quelque sorte, et qui accule en fait le pouvoir politique à ça. Mais je vois pas, ça peut pas être une décision politique, ça ne peut même pas être véritablement un affichage qui aurait un effet. J'y crois pas. Ça ne peut résulter que d'un rapport de force dans la rue et voilà, dans le mode d'action qu'on va mener. On a quand même oublié qu'il a eu très très chaud Macron avec les gilets jaunes. Hein. Ça a été, alors évidemment, ils en ont tiré toutes les conséquences, mais on peut être plus nombreux et on peut être mieux organisé et on peut avoir surtout une parole plus claire aussi. Plus clair et plus déterminé. Mais en l'état, non, en l'état, c'est une hypothèse pour moi qui est irréelle. Enfin, l'affichage est très important, mais elle est irréelle du point de vue de la réalité du rapport de force politique. Ça c'est sûr.
Je prendrai quelques exemples. Ceaușescu en Roumanie, hein, qui avait tous les pouvoirs, l'armée, la télé, le renseignement, la police politique, C'était impossible. Hein. Impossible. Hein. Ceaușescu, enfin, vous n'allez pas manifester contre Ceaușescu, vous allez finir en prison pour le reste de vos jours. On connaît la suite de l'histoire. La chute du mur de Berlin en 1989. Alors on peut toujours après intellectualiser en disant, c'est comme font les télé, c'est un long processus, il s'inscrit dans la chute du mur après la guerre froide. Non, non, tout ça, d'accord. Mais s'il n'y a pas, Porte de Brandebourg, des milliers de mecs avec des marteaux qui ont envie de tout casser, de tout péter, et qui le font, ben, le mur de Berlin, il serait encore debout. Et les Américains continueraient à administrer une partie de l'Allemagne, etc. Bon. Ne compte dans ces moments de tension extrême. Finalement, les révolutions sont des réformes qui marchent, quoi, si j'ose dire. Si on part dans la défaite en disant c'est trop compliqué le rapport, mais je suis d'accord avec toi, hein, après, je ne suis pas un utopiste, dans l'état actuel des choses, sur le papier, ce que je dis là, c'est un affichage symbolique qu'il faut avoir à l'esprit, parce qu'il faut savoir où on va, ce qu'on veut faire. La révolution, pour la révolution, ça fait chier tout le monde, hein, on n'est pas là, on n'est pas des êtres violents qui ont envie de mourir. Oui, mais de mort lente, hein, comme
Non,
chantait.
mais on a des exigences. On
On a
a
des
des exigences.
exigences, et donc qu'est-ce qu'on est prêt à perdre et à donner pour que ces exigences soient honorées? Ben, c'est toute la question. Et donc si on part, pour ça qu'il ne faut pas partir perdant, on a appris, il faut agréger. Oui, les syndicats, ça a été de la merde, hein, il faut, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pendant les Gilets jaunes. Moi, j'ai eu honte pendant la réforme des retraites, où les gens étaient contents, on en a parlé plusieurs fois, hein, avec Madame Borne, ils sont allés à Matignon, hein, sur leur chemin de Damas, ben, on peut discuter avec vous, Madame Borne, ils ont tout mangé, etc. Ils avaient fait leurs adhésions, ils étaient contents, hein, ils manifestaient avec les haut-parleurs et tout. Moi, j'ai eu la honte de ma vie ce jour-là. Bon, n'empêche qu'aujourd'hui, c'est vrai que, tu l'as dit, j'ai vu dans un tweet, quand tu as Sophie Binet, qu'on connaît bien, à QG, bah, elle donne un peu de leçons. Bon, on a envie de lui dire, Sophie, qu'as-tu fait de ton talent? Ben, on prend quand même. Hein. Je veux dire, quand le Parti socialiste va voter la censure, on prend. Hein. Pourtant, moi, quand je vois Faure qui s'est fait sa barbe pour être sage, je n'ai pas trop envie spontanément d'aller boire un coup avec lui. Mais on ne peut plus se permettre le luxe de trier, quoi. Tout ce qui rentre fait vendre, tout ce qui peut faire nombre, tout ce qui peut déstabiliser, il faut faire un mouvement qui leur fasse peur, qui les fasse bouger. Et le transpalette, c'est le mouvement du transpalette. Voilà ce qu'il faut faire.
Et de fait, hein, il y a quand même un certain nombre de victoires, puisque la CGT, qui il y a quelques jours était très frileuse hein, sur la question du 10 septembre, et c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, donc, tu viens de citer Sophie Binet, on peut citer notre ami Laurent Brun. Qui la conseille hein, sur tout ce qui est le ferroviaire, ils étaient très très critiques et ils étaient vraiment debout sur les freins sur le 10 septembre. Et là, finalement, le 27 août, eh bien, elle a annoncé hein, que la CGT rejoignait le mouvement. Elle a appelé à lancer des grèves partout sur le territoire français à partir de cette date. C'est quand même tout à fait. Il faut pas le sous-estimer. C'est quand même très important. Parce que ça ne s'était pas produit au moment des Gilets jaunes, à aucun moment. Et du 17 novembre 2018 jusqu'au printemps 2019, jamais la CGT n'avait rejoint un appel Gilets jaunes.
Et là, je
Donc
pense que
on...
justement, ce qui a, comment dire, ce qui a changé, c'est la nature, à mon avis, de la compréhension des mouvements sociaux. On sait que les mouvements sociaux aujourd'hui seront des mouvements hybrides. Et évidemment, quand on regarde l'origine depuis mai du 10 septembre, c'est pas très clair, mais j'ai envie de dire, peu importe d'où vient l'allumette, quoi. L'essentiel, c'est le brasier. Et ça, ils savent que de toute façon, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, avec les réseaux sociaux, avec aussi une société plus liquide, elle est moins, enfin, y a à peine 10% des salariés qui sont syndiqués. Donc c'est quand même, ça peut pas faire l'ensemble du collectif. C'est pas possible. Et ça, ils le savent. Ils le savent, mais il faut jamais oublier que les syndicats sont des moyens. Ils ont une expérience de la lutte. Ils ont aussi, voilà, comment dire, des leviers d'action dont on ne peut pas non plus se passer. Et c'est là où il y a une articulation à faire entre une forme de radicalité dans la compréhension de l'affrontement politique et l'outil syndical. Et je pense que ça a changé. Ça a changé. Il y a eu une sorte, certains médias disent, de gilet jaunisation du mouvement syndical. C'est pas complètement faux. D'ailleurs, on l'a vu dans le mouvement lui-même, hein, social, on a vu des mélanges, des hybridations. Et je pense que ces hybridations, ça fait peur au pouvoir politique, parce que là, vous pouvez plus vraiment maîtriser, hein, le fameux mot de Hollande. Elle est très importante, cette phrase. Je ne participe pas à quelque chose que je ne maîtrise pas. Moi, je ne participerai qu'à des choses que je ne maîtrise pas. Voilà. Et c'est ça la
D'une
différence
certaine
entre nous.
manière, alors ça c'est fondamental, et la France insoumise l'a compris, Mélenchon l'a compris, quand il a dit on ne va pas récupérer le mouvement, etc. Parce que c'est compliqué aujourd'hui pour un parti politique, notamment pour la France insoumise, avec tout ce qui se prenne dans la gueule dans les médias à longueur de temps, de dire, et d'ailleurs ça a pour partie marché, hein, il y a des gens qui disent, qui ne sont pas trop politisés, oh là là, si c'est Mélenchon, si c'est Binet, la CGT. Et la France insoumise, ah non merci, moi je m'affiche pas avec ça. Hein, bon.
Mais les médias officiels vont tout faire
Alors
pour le
voilà,
mettre en
ce
avant.
que j'allais dire. Alors moi j'aime bien cette idée d'hybridation, hein, parce qu'elle est juste. C'est comme ça que, c'est-à-dire les 10% que dont tu parles, ou les 8% de syndiqués et les 2% de militants d'un parti politique viennent s'agréger comme force, comme catalyseur dans un mouvement avec de l'expérience pour pouvoir le guider, non pas le contenir, etc., mais le pousser, le faire exploser. Premier élément. Et deuxième élément, moi je crois beaucoup aux vertus, c'est comme ça que fonctionnent les médias officiels, de la répétition. Hein. De dire islamo-gauchiste, 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 islamo-gauchiste la journée, ça a commencé, ça a percé. Hein. Maintenant, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui le disent. C'est-à-dire que si tu as 100 000 mecs qui tous les jours commence à se grouper devant les ministères, devant l'Élysée, devant les médias officiels en disant Macron démission, Macron démission, des centaines de milliers de gens tous les jours, à un moment, tu as le journal de TF1 et celui de France 2 qui vont être, et même celui de CNews qui vont être obligés de dire il se passe quelque chose, quoi. Troisième journée avec 100 000 mecs, en dépit du fait que la préfecture de Paris a voulu bloquer, ta, 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 ta. Tu bloques pas 100 000 ou 200 000. Alors il va falloir du nombre. Hein. S'il y a 20 000 mecs, ça marchera pas. 100 000, ça commence à faire. Mais pour bien faire, il faudrait qu'il y ait 1 million de personnes. C'est toujours ce million qui a fait, pour parler de Bayrou, vaciller, changer les choses sur la loi Falloux ou le CPE. Ou s'il n'y a pas 1 million de gens, il ne se passe rien. Quoi. Voilà.
Et que les Français veuillent changer de régime. Je crois que
Voilà,
c'est
c'est
vraiment
tout.
cette volonté-là, quoi.
Volonté, elle est là. Pour moi, elle
Alors,
est.
je veux quand même rappeler la situation hein, du pays, hein, parce que voilà, là, ils sont en train de nous promettre l'enfer s'ils sont renversés, si voilà, une nouvelle crise de régime intervient, si une nouvelle dissolution intervient. Mais en fait, l'enfer, il est déjà là. C'est déjà la situation française, hein, puisque. Je le disais tout à l'heure, tous les indicateurs vitaux hein, du pays sont vers le pire depuis 2017. Et je n'exagère absolument pas, puisque là, je parle du carrelage, hein, je parle de la mortalité infantile qui progresse, de la natalité qui s'effondre, des défaillances d'entreprises qui explosent, de la balance commerciale, du déficit public qui explose, du taux de croissance qui s'affaisse, du nombre de pauvres, on l'a encore appris d'après les chiffres d'hier, qui explosent. Non, vraiment, les seuls trucs qui sont en train de progresser aujourd'hui dans le pays au niveau de tout ça, c'est le budget de l'Élysée et c'est la contribution nette de la France à l'Union européenne. Qui serait en mesure aujourd'hui, qui serait en mesure aujourd'hui de mettre un terme à ce qui est en cours dans ce pays depuis quasiment 10 ans maintenant, puisque Macron est, c'est ça qui est fou, c'est que Macron est aux commandes du pays depuis quasiment 10 ans, puisqu'il était
Oui,
ministre
il a
de
signé.
l'économie de Hollande et plateforme de tout le CAC 40 de Hollande déjà avant même son élection à la présidence de la République en 2017, je le rappelle quand même.
Moi, je crois beaucoup à la vertu du faire. Ce que disait Harold, c'est en faisant qu'on avance. Moi, je vois bien, un homme peut changer la face du monde. Hein. Je me rappelle de la place Tiananmen. avec ce jeune homme qui a fait reculer des chars. L'image est devenue mondiale. Si, on va faire un peu de politique, fiction, mais pas trop, hein, si devant un édifice quel qu'il soit, devant l'Assemblée nationale, tiens, parce que devant l'Élysée, ce sera un peu plus compliqué, disons place de la Concorde, il y a 100 000 personnes qui se réunissent un jour, 2 jours, 3 jours, hein, et puis qu'à un moment, un leader charismatique, un homme, une femme, un jeune, un vieux, trouve les bons mots dans un haut-parleur et qui disent quelque chose, quelques éléments simples, ça suffit, voilà ce qu'on exige. À un moment, ça peut faire basse. Ça a toujours été comme ça, les révolutions. C'est un point métastable à un moment, il y a quelqu'un qui prend la parole, qui est là, au bon endroit, au bon moment. Moi, je crois beaucoup à ça. Et je pense que c'est ça qui va se passer. Il va falloir, peut-être que cette personne, elle est dans nos rangs, elle est sûrement dans nos rangs, hein, quelque part, peut-être qu'elle va surgir de nulle part. Hein. À un moment, elle va s'imposer comme la figure, c'est tombé par terre notre Gavroche, hein, c'est la faute à Voltaire. On évitera Sandrine Rousseau parce que sinon on va perdre. Je vais refaire la parenthèse, non, c'était méchant. Mais voilà quoi. Moi, je crois beaucoup à ça, et c'est comme ça que les choses se feront. Je
Il
suis.
faut comprendre que tout le système médiatique, ce que tu appelles les médias officiels, fonctionne à la dissuasion des processus émergents. C'est-à-dire
Toujours.
que toujours, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour empêcher l'émergence d'un processus. Ce sont des stérilisateurs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens, ce n'est même pas de la censure, c'est qu'ils créent une dépotentialisation permanente. C'est ce que moi j'avais reproché à l'époque à certains syndicats. Dans l'éducation nationale, n'en parlons pas, parce que nous, on a des professionnels de ça. Hein. Dès qu'il y a un peu de désir, dès qu'il y a un peu de romantisme et d'envolée et de conflictualité, hein, on vous stérilise, hein, on vous rappelle au principe de réalité, la responsabilité, etc. Donc ces stérilisateurs dissuadent les mouvements, en fait. C'est ça, ils les dépotentialisent. Et donc c'est vraiment une lutte aussi médiatique de faire vivre, et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire aussi, hein, de faire vivre à l'intérieur de la représentation médiatique élargie, hein, avec des médias non officiels, on va les appeler comme ça, cette capacité de faire émerger quelque chose qui est inouï, qui n'est pas attendu. Et c'est ça qui peut renverser, et c'est ça qui renverse toujours. Hein, le changement de régime et le changement institutionnel qu'on veut, il n'est pas prévu, il n'est pas enseigné à Sciences Po ou hein, les énarques ne sont pas formés à ça. Non, 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 non. Ils s'adapteront peut-être, mais ils ne sont pas formés. Ils sont formés pour empêcher ça. Il faut comprendre en fait, ce sont des stérilisateurs ces gens. Voilà. Tout ce qui sort du rang doit être coupé. Alors après, ils ont évidemment toute une rhétorique, populisme, démagogie, ingérence russe, et on y va, quoi. Ils ont
Là
toute une
que ce qu'ils ont bien
science,
compris,
en fait, pour empêcher que quelque chose de nouveau émerge, quoi.
qu'ils ont bien compris, alors parce que ils ont été obligés de parfaire leur pare-feu, si j'ose dire, leur système de torture comme les Romains. C'est-à-dire qu'au départ, ils avaient juste pris le pouvoir dans les partis politiques, dans les syndicats, et ils avaient acheté par leurs amis oligarques les médias. Ça n'a pas suffi. Parce que l'émergence des réseaux sociaux et des médias alternatifs ont fait en sorte que tout ça était en train de voler en éclats. Donc, ils ont fait le Digital Service Act, notamment, sans compter tous les algorithmes et tous les programmes de surveillance. Hein. J'ai un copain qui a travaillé beaucoup en Chine, je vais vous en dire 2 mots, qui en revient, c'est assez effrayant quand même, d'une certaine manière. Et donc, le DSA, qui permet d'invalider des élections, qui permet de mettre sous contrôle, par exemple, Pavel Durov, hein, qui est franco-russe, hein, il ne faut pas l'oublier non plus, qui doit venir pointer, comme avant, pointer au chômage tous les 14 jours, qui peut simplement aller à Dubaï parce qu'il a sa famille et quelques bureaux pour Telegram, et on ne sait pas trop ce qu'on lui reproche, hein, ça fait plusieurs mois. Donc tout ça, ils sont en train d'empêcher d'émerger.
Et personne, et je précise, Didier, je suis complètement d'accord avec toi, et personne ne s'en occupe. Aucun
Personne ne s'en occupe.
média français n'en parle sérieusement.
C'est incroyable.
Voir les médias français comme le groupe Le Monde l'enfonce.
C'est fou. Alors j'ai un ami, je fais une parenthèse, qui travaillait peu importe pour une grosse boîte avec des Chinois, qui a travaillé pendant 8 ans et qui a vu le développement du programme social chinois. Donc tu as une note sociale La note sociale, c'est vachement bien fait en Chine. On ne te dit pas, tu peux pas fumer, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit d'acheter une bagnole qui pollue, etc. Tu fais ce que tu veux. Tu peux acheter une bagnole qui pollue, même si la Chine a fabriqué toutes les bagnoles électriques du monde pour les tester d'abord sur sa population, pour ensuite inonder le monde entier. On te dit juste, tu veux pas ça? Ok, ta note sociale est dégradée. Tu arrives en retard au travail? Ta note sociale est dégradée. Tu as craché, tu as fumé dans la rue, tu as regardé un site porno. Il y a même les enfants, parce qu'il y a des algorithmes qui sont sur les jeux vidéo. C'est les parents qui reçoivent une alerte sur leur téléphone. Ils disent, attention, dans 1 minute, votre note sociale va être dégradée parce que votre enfant, ça fait 1 heure qu'il est sur le jeu. Donc, ah, vite, arrête, arrête de jouer, etc. C'est exactement ce qui nous pend au nez. Le moindre millimètre carré est filmé. Et sous contrôle, parce qu'il y a tellement de populations qui gèrent les comportements, ils ne gèrent pas les individus. Et nous, on avait manifesté, tu te rappelles, on était ensemble contre la loi de sécurité globale qui était passée à des années-lumière des Français, où une partie de la gauche était pour d'ailleurs, hein, comme pour défendre les policiers qui s'étaient rendus coupables d'exactions. Tout ça, on est en train d'y passer. Si j'en parle, c'est que demain, on a encore les moyens de lutter contre des manifs, hein, contre des policiers, mais demain, tu vas faire quoi? Si tout ce système continue, tu vas lutter contre des machines, contre ta note sociale, tu vas bidouiller tes trucs pour augmenter ta note sociale, parce que si ta note sociale est dégradée, tu ne peux plus prendre après d'abord un métro, puis un bus, puis un avion, puis tu peux plus te loger, puis tu peux plus avoir de boulot. Quand tu passes dans une gare, il y a ton nom qui est affiché comme un voleur international, etc., etc. Tu ne peux plus rien faire. Tu es un déchet social. Et quand Harold parlait de la violence sociale qui s'exerce, elle est peu à peu confiée à des algorithmes, peu à peu confiée à des intelligences tout à fait artificielles, mais hyper sophistiquées, qui gèrent le moindre centimètre carré de notre vie, bientôt la fin de l'argent liquide. Regarde tout ce qu'on fait, il y a de moins en moins de. Tu fais une requête sur Google aujourd'hui, tu as pratiquement plus de. Tu as 3 pages de résultats, 4 photos qui se courent après, et sans arrêt des pop-up, abonnez-vous, tu lis 3 lignes, tout est devenu compliqué en fait, hein. Tout a envahi nos vies. Et donc, bah, ça, il n'est pas trop tard, mais il est quand même très tard, hein, de ce point de vue.
Question pour parce qu'on va bientôt achever cette discussion issue du chat hein, sur le 17 ans. Y a-t-il une suite à votre connaissance hein, prévue à la journée du 10? Et si oui, sont-ce des grèves illimitées, des manifs quotidiennes? Je sais qu'il y a aussi une date prévue, Didier, le samedi d'après le 10, hein, ce qui rappelle un. Vraiment, évidemment, les appels gilets jaunes. Est-ce que vous avez un ressenti particulier, des informations à ce sujet?
Moi, je pense que les mouvements de grève, de toute façon, il ne faut pas attendre du 10 septembre plus qu'une amorce de quelque chose. On verra ce qui se passe. Il faut inscrire la conflictualité dans la durée. Et une grève, par exemple, bah, ça se construit. Ça se construit, il faut discuter avec les personnels. Enfin, il y a tout un travail de terrain à faire. Et donc ça ne peut pas se faire en une journée, c'est certain. Après, je pense que certains médias vont insister en disant bah, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne faut pas tomber dans cette rhétorique-là. Je pense qu'il faut partir sur une trajectoire un peu longue. Moi, ce que j'entends, c'est que oui, il y a une volonté, en tout cas courant septembre, hein, de faire des actions et de débrayer, etc. Donc voilà, mais je pense que ça peut être long et il faut que ce soit long. Il faut que ce soit long, il faut que ça s'inscrive dans la durée et qu'il y ait aussi une transformation politique, comme on a eu avec les mouvements sociaux récents. Hein, des discussions, des analyses qui mènent à des actions, quoi. Mais moi, je pense pas qu'il faille tout miser sur le 10 septembre, quoi. C'est pas.
Moi, comme je dis souvent, c'est pas une guerre d'arrivée, c'est une guerre de départ, le 10 septembre. Et puis, tu parlais de hybride, c'est vraiment le mot. Chacun doit faire ce qu'il a à faire à l'endroit où il est, hein. Donc, les responsables syndicaux ont pris leur décision. Il y a des journées de grève qui sont annoncées. Il y a des gens qui vont manifester. Il y a des gens qui vont bloquer, ne pas utiliser leur carte bleue, etc., etc. Il y a tout un tas de façons de procéder qui vont être expérimentées et qui ont. Tout le monde comprend que ce n'est pas une journée, quoi, hein, que c'est juste le coup d'envoi de quelque chose de plus vaste. Après, est-ce que ça marchera? Est-ce que ça ne marchera pas? Comme tu le dis, nul ne sait. Un mouvement social, ce n'est pas maîtrisable a priori. Hein, tu as bien expliqué ce qu'on pouvait maîtriser, ce qu'on ne pouvait pas maîtriser. Bah, si on maîtrisait une révolution, ça se saurait. Hein. Dire, bon, bah, voilà, ça ne serait pas une révolution. Hein, quand on voit comment a fini Saddam Hussein, quand on voit comment a fini Mussolini, Oussama Ben Laden ou Muammar Kadhafi, bah, on ne peut pas dire qu'il y a eu un plan en disant bah, on va faire ça, regardez, le 14 août à 14h17, Saddam Hussein va perdre un œil, puis après, bah, non, ça ne marche pas comme ça. Je veux dire, il y a une gare de départ, et puis après, qu'est-ce qu'on est capable d'en faire?
Ouais, mais
Je
pour
pense qu'il faut
compléter.
intégrer, il ne faut pas la souhaiter, hein, parce qu'on n'est pas là, on n'est pas des foulants, on n'est pas des fous. Mais je suis. Maintenant, il faut que tout le monde comprenne qu'il faut intégrer la violence comme un fait, un passage obligé. Je ne dis pas qu'on va promouvoir la violence, hein, mais il faut l'accepter.
Bah, on l'a subi la violence.
Subitement, ben, il faut l'accepter, c'est comme
Le
ça.
problème, la violence, il n'y a pas la violence, quoi. La violence, on l'a subie depuis des années. J'ai eu, pour conclure, une discussion intéressante tout à l'heure au bureau de tabac, justement, et ce qui reflète assez bien, je pense, l'ambiance générale. C'est-à-dire qu'à la fois, je crois, il y a un scepticisme normal et naturel, à mon avis, hein, il faut aussi l'accepter, sur le 10 septembre, en disant, bon, ben, c'est quand même un peu flou, etc. Mais d'un autre côté, et ça, je trouve ça très encourageant, d'un autre côté, l'idée que de toute façon, de toute façon, il y a quelque chose d'inéluctable. Et que, oui, d'accord, ça prend cette forme-là, mais de toute façon, il faut bien que ça prenne une forme et on en fera ce qu'on en fera. Et si on laisse cette forme à des positions qui nous, ne nous plaisent pas, eh bien, on subira. Donc, les gens qui ont des convictions politiques et qui se disent, ben, maintenant, il faut y aller, ben, il faut qu'ils prennent le terrain. Et puis, ils verront bien ce qui se passe. Mais si on laisse, vous savez, en politique, il n'y a pas d'espace vide. Hein. Si on laisse le terrain, il est occupé et souvent par le pire. Donc, moi, je pense qu'il faut y aller. Il faut se fédérer, réactiver nos réseaux, parce qu'on a des réseaux d'action. Hein. On va faire une rencontre là dimanche, justement, un petit peu de discussion autour de tout ça. Bon, ben voilà, il faut commencer comme ça. Il faut commencer par réactiver ce qui est là, parce qu'on a une expérience maintenant de la lutte sociale quand même depuis toutes ces années, n'est-ce pas, Aude? Le micro, Aude.
Merci, merci les amis pour cette soirée de rentrée de QG. Évidemment, on reviendra autant qu'il le faut dans cette rentrée sociale brûlante et je pense très bientôt car je suis finalement assez optimiste. Je pense que nous avons de bonnes raisons de croire qu'il va se passer des choses très importantes dans les semaines et les mois qui viennent en France. Voilà. Et on sera évidemment tous ensemble avec vous sur l'antenne de QG et de Quartier Populaire notamment. Comme je vous le disais en introduction, nous avons un tout nouveau site qui arrive, QG.media, nouveau design, nouvelle esthétique, nouvelle fonctionnalité simplifiée et représentée très bientôt, dès lundi. Je vous invite bien sûr à nous soutenir dès ce soir sur QG.media, à nous découvrir, à nous accompagner chaque semaine. Et je vous dis à très bientôt et je souhaite une bonne rentrée des profs à tous nos profs et notamment à notre prof de quartier populaire, Harold, qui prend le service demain à quelle heure?
Demain, on a le prêche à 9h. Hein, voilà, je n'ose pas dire le prêchi-prêcha, mais bon, on a la routine administrative et puis après, on prend les classes. Alors, le lundi, c'est les secondes, hein, puisque c'est étagé. Après, c'est le mardi, c'est les professeurs principaux. Moi, je ne fais pas ça. Trop de responsabilités. Et puis bon, ce n'est pas mon truc. Je n'ai jamais été très bon sur l'organisation administrative. Et donc, moi, ce sera mercredi. Voilà.
Bonne rentrée donc aux profs, bonne rentrée à tous et à très bientôt. les amis.
Bonsoir à tous les deux.
Bonne fin de soirée et
À
bonne nuit.
bientôt. Bonne nuit à tous.